Les cours du Collège de France, Didier Fassin, chaire questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines.
En janvier 1979, à New York, où il enseignait, Edward Said reçut un télégramme en provenance de Paris l'invitant à participer à un séminaire sur la paix au Moyen-Orient, qui devait se tenir 2 mois plus tard. Il était signé de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Ce dernier, bien qu'en déclin sur la scène intellectuelle française, où il était contesté pour ses sympathies communistes par les médiatiques nouveaux philosophes et critiqué pour son existentialisme humaniste par le courant structuraliste, il demeurait néanmoins une figure respectée de la pensée critique, figure respectée aux États-Unis, moins pour le prix Nobel de littérature qu'il avait reçu et refusé 15 ans auparavant, que pour son engagement anticolonial contre les guerres d'Algérie et du Vietnam. De surcroît, la revue Les Temps modernes, qu'il dirigeait, avait publié au lendemain de la guerre de 1967 un numéro spécial volumineux intitulé Le conflit israélo-arabe, réunissant 2 séries d'articles, l'une par des auteurs israéliens, l'autre par des auteurs arabes, ce qui démontrait la volonté de son équipe éditoriale de faire entendre, sinon dialoguer, les deux parties. Le titre, d'ailleurs, du célèbre article d'introduction de l'historien Maxime Rodinson, Israël fait colonial, posait pour la première fois en France une question qui allait devenir centrale dans les débats sur l'histoire de la région. Admirateur du courage et de la lucidité de Jean-Paul Sartre, c'est donc avec confiance qu'Edward Said, qui outre son poste de professeur à l'Université de Columbia, était membre du Conseil national palestinien fondé en 1964. Donc, Edward Said partit pour Paris où il apprit que pour des raisons qu'on lui dit être de sécurité, la rencontre se tiendrait dans un appartement privé, celui de Michel Foucault. Cette perspective l'enthousiasma dans la mesure où il avait lui-même été l'un des principaux introducteurs de sa pensée aux États-Unis dès le début des années 1970. Impressionné, le critique littéraire palestinien-états-unien se rendit donc au rendez-vous. Il découvrit non sans plaisir que son livre « Beginnings », dans lequel il faisait notamment un éloge de Michel Foucault, se trouvait sur une étagère de la bibliothèque de ce dernier. Et il eut une brève mais cordiale conversation avec lui, rentré quelques mois plus tôt d'un séjour en Iran, où la révolution islamique venait de faire tomber le Shah. Présente, Simone de Beauvoir annonçait à qui voulait l'entendre qu'elle allait elle aussi se rendre à Téhéran, mais pour protester contre le port du Chador. L'arrivée tardive de Jean-Paul Sartre permit enfin l'ouverture du séminaire qui devait durer 2 jours. Dès le départ, Edward Said dut cependant déchanter en découvrant que les termes en avaient été déterminés à l'avance par la garde rapprochée du philosophe vieillissant et notamment par son secrétaire, Pierre Victor, ancien leader de la gauche prolétarienne, de son vrai nom Benny Lévy, dont le frère aîné était devenu musulman tandis que lui-même était passé du maoïsme au judaïsme. Il fut rapidement évident que l'objectif principal de la réunion était la normalisation de la relation de l'État d'Israël avec les pays arabes de la région, dans la ligne des accords de Camp David qui venaient d'être signés avec l'Égypte, tandis que la question de la Palestine n'était nullement à l'ordre du jour. Minoritaires, les participations arabes à cette réunion n'étaient guère écoutées. Quant à Jean-Paul Sartre, il resta silencieux les 2 jours, hormis le temps de lire un texte qui avait été rédigé en fait par son secrétaire, dans lequel ni l'histoire de l'expulsion de la population palestinienne, ni l'occupation présente des territoires palestiniens n'étaient évoquées au grand dam d'Edward Said, qui réalisait, écrit-il, que le critique de la colonisation française en Algérie n'avait pas de critique à exprimer sur la colonisation israélienne en Palestine. Probablement ignorait-il cependant qu'à cette époque, une partie importante de la gauche française, notamment socialiste, était favorable à la politique israélienne, tandis que c'était la droite gaullienne qui manifestait une sympathie pour les nations arabes. Quoi qu'il en soit, de cet épisode parisien, certes mineur, Edward Said conserve le vif souvenir, dit-il, de l'ironie de cette scène troublante qu'il rapporte deux décennies plus tard dans un article de la London Review of Books. Et Michel Foucault. De manière surprenante, il s'éclipsa discrètement avant le début du séminaire en expliquant qu'il allait travailler à la Bibliothèque nationale. Hôte accueillant de la rencontre, il considérait ne rien avoir à y dire, ni peut-être à y apprendre. Son départ inopiné résultait probablement de son inconfort intellectuel par rapport à la situation au Proche-Orient, dont Edward Said mentionne deux éléments d'explication. D'une part, témoin lors de son séjour en Tunisie des violences commises en réaction à la guerre de 1967 contre des synagogues et des commerces juifs, abusivement amalgamés à la politique sioniste. Il avait été sensibilisé au problème de l'antisémitisme, ce dont on trouve trace dans un courrier qu'il avait adressé à l'époque à Georges Canguilhem. D'autre part, même s'il ne l'affirmait pas ouvertement, sa sympathie allait au projet israélien plutôt qu'à la cause palestinienne, ce qui avait d'ailleurs profondément affecté la relation qu'il entretenait avec son ami Gilles Deleuze. En fait, Michel Foucault, qui s'exprimait sur de nombreux sujets, y compris internationaux, n'a parlé que rarement et allusivement du Proche-Orient, comme en 1982, après le massacre de Sabra et Shatila, à propos duquel il se contente de dire « Il y a eu face à ce noyau d'intolérable une réflexion morale assez extraordinaire. » Lui qui avait défendu les étudiants tunisiens, les révolutionnaires iraniens, les boat people vietnamiens, les syndicalistes polonais, n'exprimera guère de soutien aux droits du peuple palestinien. C'est cette absence de Michel Foucault, à la fois anecdotique, son départ d'une réunion qui se tenait pourtant à son domicile, et politique, son silence autour du problème israélo-palestinien qui était alors au centre du débat public, que je voudrais prendre comme point de départ d'une enquête plus largement sur ses absences de certains grands enjeux théoriques de son temps. Ayant commencé ce cours avec ses présences, il m'a paru nécessaire de ne pas faire silence en terminant sur ses absences. Bien entendu, il est toujours facile et quelque peu vain de relever ce dont une autrice ou un auteur n'a pas parlé dans son œuvre. Mais en l'occurrence, il s'agit plutôt de repérer des prolongements de sa pensée, des questions dont on aurait pu supposer qu'elles découlaient de ses analyses, en somme, des points aveugles, ce qu'il n'a pas pu ou pas voulu voir. Des philosophes, des sociologues, des anthropologues lui en ont d'ailleurs fait la critique, non pas cependant comme celles et ceux qui, éprouvant une profonde antipathie à l'égard de ses travaux, en ont rejeté les fondements, mais au contraire, en suggérant qu'il aurait dû aller plus loin et en s'étonnant qu'il ne se soit pas aventuré sur des terres dont il leur permettait d'entrevoir des rivages. Ce sont donc ces zones d'ombre que je veux étudier en montrant que, bien qu'il les ait méconnues, son œuvre a été souvent, pour celles et ceux qui l'ont explorée, une source d'inspiration, une méthode propice à prospecter de nouveaux chantiers. Votre préoccupation essentielle est d'analyser la formation de l'épistémé en Occident. Quel est donc pour vous le monde qui se trouve en dehors de l'Occident? La question de l'intellectuel japonais Shigehiko Asumi embarrasse sans doute Michel Foucault qui admet « Vous me posez là une question très difficile ». Commençant par l'éluder, il finit par reconnaître, s'intéresser dans ses travaux non pas à l'universalité des connaissances, mais au contraire à la singularité historique géographique du savoir. Puis il hasarde une hypothèse sur le rôle de l'Occident dans l'économie internationale de la connaissance. Je le cite. « Est-ce que dans certains cas, sur le mode de la soumission, dans d'autres au contraire, sur le mode de l'appropriation, dans d'autres, enfin, sur le mode du conflit, le monde entier ne s'est pas mis à l'écoute de ces formes de savoir. » Une hypothèse dont il craint toutefois qu'elle ne soit mal comprise. Je ne voudrais pas que ce que je dis paraisse affreusement impérialiste. Il corrige donc quelque peu sa formulation sans véritablement changer le sens du propos. Les Occidentaux ont été piégés par leur propre colonisation, par l'occidentalisation du monde entier, puisque c'est avec les instruments formés en Occident que le monde non occidental s'est libéré de son emprise. En réalité, la pensée de Michel Foucault, sa philosophie, sa critique portent sur le monde occidental et se réfèrent à un corpus occidental. Les incursions hors de l'Occident sont rares, telles l'évocation vague au demeurant de l'ars erotica de la Chine, du Japon et de l'Inde, mais aussi du monde romain et arabo-musulman dans La volonté de savoir, et la mention fugace mais saisissante du, je cite, « génocide colonisateur » au point de rencontre du biopouvoir et du racisme dans « Il faut défendre la société ». Mais hormis ces occasionnelles allusions, l'Occident est le cadre géographique, historique, culturel et politique dans lequel se déploie la réflexion foucauldienne de la folie à la prison, de la médecine à la sexualité, de la vérité à la subjectivité. Comme l'écrit Edward Said à nouveau, le plus frappant de ces points aveugles était son insouciance au regard de l'écart existant entre des éléments de preuve limités au contexte français et des conclusions ostensiblement universelles. Son eurocentrisme était presque total, comme si l'histoire elle-même se déroulait parmi un groupe de penseurs français et allemands. La remarque, qui date de 1984, moment où il commence lui-même, Edward Said, à se démarquer de la pensée de celui qui l'avait tant inspiré, n'est pas tout à fait juste cependant. Car Michel Foucault reconnaît que ses analyses ne valent que pour le monde occidental et même souvent, en ce qui concerne ses travaux historiques, s'appuie seulement sur des archives françaises. Il ne s'aventure guère à parler d'autres régions de la planète et ne prétend pas que ses analyses y aient une validité. Le géographe britannique Stephen Legg, plus nuancé, parle de présence-absence du colonialisme dans l'œuvre foucauldienne. Il cite ce qui semble être la seule phrase sur le sujet, dans le cours « Il faut défendre la société », le 4 février 1976, Foucault écrit et dit « Il ne faut jamais oublier que la colonisation, avec ses techniques et ses armes politiques et juridiques, a bien sûr transporté des modèles européens sur d'autres continents, mais qu'elle a aussi eu de nombreux effets de retour sur les mécanismes de pouvoir en Occident, sur les appareils, institutions et techniques de pouvoir. » Il y a eu toute une série de modèles coloniaux qui ont été rapportés en Occident et qui a fait que l'Occident a pu pratiquer aussi sur lui-même quelque chose comme une colonisation, un colonialisme interne. C'est ce qu'on appelle en français le choc en retour et en anglais « the boomerang effect », désignant l'appropriation dans l'espace national de pratiques de l'empire colonial. On ne sait pas si Michel Foucault avait lu Aimé Césaire, qui le premier en 1950, dans le discours sur le colonialisme, utilise cette formule à propos de la manière dont le monde occidental a découvert que les politiques répressives éprouvées lors de la colonisation en venaient à être utilisées contre ses propres populations, le poison expérimenté sous les tropiques, son expression, étant ultérieurement instillé dans les veines de l'Europe. Il s'agit là d'une évocation explicite du nazisme, je cite Aimé Césaire. Et alors un beau jour, la bourgeoisie s'est réveillée, a été réveillée par un formidable choc en retour, les gestapos s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. Mais il est vrai qu'il s'agit là de la forme extrême, annihilatrice, dont parle aussi Hannah Arendt, au même moment, pour établir une généalogie coloniale du nazisme, alors que Michel Foucault se réfère, lui, de façon plus vague et beaucoup moins dramatique, aux structures juridico-politiques. Il n'en reste pas moins cette question, on sera même tenté de dire cette énigme, d'un penseur de la généalogie des pouvoirs et d'un militant de multiples causes qui était étudiant pendant la guerre d'indépendance de l'Indochine et professeur pendant la guerre de libération de l'Algérie, qui a enseigné à l'université de Tunis et candidaté à un poste à Lubumbashi, mais qui n'aborde jamais la question coloniale, ni dans ses livres, ni dans ses cours, ni dans ses entretiens. Autre source d'étonnement, ce sont ses travaux, aussi occidentalo-centrés soient-ils, qui vont renouveler les études coloniales et postcoloniale. L'historienne et anthropologue états-unienne Anne-Laura Stoller peut ainsi écrire en 1995, au début de Race and the Education of a Desire, la race et l'éducation du désir, Son livre pionnier sur la sexualité dans le monde colonial, je la cite, « Aucun cadre analytique n'a saturé le champ des études coloniales de manière aussi complète au cours de la dernière décennie que celui de Michel Foucault. Ses affirmations sur la construction discursive des régimes de pouvoir ont conduit à explorer à la fois la production des discours coloniaux et leurs effets. » Et de citer une douzaine d'ouvrages devenus des classiques de l'histoire et de l'anthropologie du monde colonial, parmi lesquels ceux de Jean Komaroff en Afrique du Sud, Aiwa Hong en Malaisie, Tim Mitchell en Égypte, David Arnold en Inde, David Scott au Sri Lanka, et bien sûr le sien au Sumatra, et d'autres encore. Même lorsque sont exprimées des critiques, c'est encore l'œuvre foucauldienne qui sert de référence. Du reste, cette inspiration n'implique pas une foi aveugle, ajoute-t-elle. Je continue de la citer. Nos sensibilités ethnographiques nous ont poussé à contester les limites de son insistance sur les discours et de ses conceptions imprécises du pouvoir, à étudier les pratiques locales quotidiennes des peuples qui acceptaient ou résistaient à l'autorité européenne et à exposer les tensions de son projet et ses fragilités inhérentes. Même lorsque ces thèses sont récusées donc, et leur transfert au monde colonial disputé, c'est la méthode critique de Foucault qui est mise en œuvre, dit-elle. Pour l'essentiel, il s'est agi d'appliquer les principes généraux du cadre d'analyse foucauldien aux ethnographies de lieux et de moments spécifiques et de tirer parti de son appareil conceptuel plutôt que de discuter le contenu historique de son analyse. Et Anne-Laura Stoller en donne pour exemple son propre domaine de recherche, celui de la sexualité coloniale. Dans La volonté de savoir, explique-t-elle, Michel Foucault récuse, comme on l'a vu, la théorie commune d'une répression de la sexualité au XIXe siècle, dont la forme accomplie se réaliserait dans l'Angleterre victorienne. Au contraire, dit-il, il faut se demander pourquoi ce discours proliférant sur la sexualité au cours de cette période. Non que la répression n'ait pas été absente, qu'une police des mœurs ait été créée, que des règles de décence aient été imposées, mais on doit s'interroger sur cette obsession de parler du sexe, de contrôler le désir, de réguler les fantasmes. En fait, pour lui, la sexualité est devenue un objet de savoir-pouvoir, c'est-à-dire un thème mobilisant les discours scientifiques et les technologies politiques. Telle est donc l'idée qu'ont retenue les historiens et les anthropologues du monde colonial, d'une part en considérant que l'étude de la sexualité était cruciale pour la compréhension de l'entreprise colonisatrice et d'autre part, en montrant la manière dont le colonisateur manifestait son autorité sur le colonisé à travers la surveillance de sa sexualité. L'Afrique du Sud a produit une importante littérature sur le sujet directement inspirée des travaux de Michel Foucault. Ainsi, la spécialiste de santé publique britannique Karen Jockelson montre comment au début du XXe siècle, la panique morale autour de la diffusion des maladies vénériennes, nourrie par des théories médicales racistes, s'est progressivement déplacée de l'ensemble de la population pauvre vers spécifiquement la population africaine, vue comme à la fois plus vulnérable à la maladie et plus encline à la promiscuité. De son côté, le psychologue sud-africain Alexander Butchart décrit comment, à cette période, pour rendre compte de la progression de la syphilis parmi les hommes blancs de la bourgeoisie, se développent des théories selon lesquelles, en raison de leur hygiène défaillante et de leur piètre moralité, les domestiques africaines contaminent les enfants dont elles ont la charge, les pères s'infectant à leur tour lorsqu'ils embrassent leur progéniture. Les préjugés racistes sur la sexualité des personnes noires se sont réactivés avec l'épidémie de sida en Afrique du Sud sur le thème de leur promiscuité supposée et pour ce qui est des hommes, de leur violence qui conduisait à en faire des violeurs. Mais qu'ayant au cours de la même année traité de la guerre des races dans son cours et de la question de la sexualité dans un livre, Michel Foucault n'ait pas imaginé un lien entre les deux dans le contexte colonial demeure intriguant. Les travaux post-coloniaux, eux aussi, ont souvent engagé un dialogue fructueux, quoique sans concession, avec l'approche foucauldienne. Si les études littéraires ont joué un rôle majeur dans leur constitution, sous l'influence notamment, bien sûr, du livre « Orientalisme » de Édouard Saïd, qui est une critique de la manière dont le monde occidental, et notamment ses savants et ses écrivains, ont représenté les sociétés non occidentales d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Asie, de manière péjorative, culturaliste et raciste. En revanche, dans les sciences sociales, ce sont les Subaltern Studies qui ont le plus activement fait vivre le thème de la postcolonialité. Ce mouvement intellectuel, animé par l'historien indien Ranajit Guha, a réuni à partir des années 1970 un groupe de chercheurs de l'Inde décidés à bouleverser la compréhension de l'histoire sociale de leur pays en échappant à la triple influence des approches coloniales, nationalistes et marxistes. Leur source d'inspiration, jusque dans le nom qu'ils se sont choisis, c'était le philosophe et politicien communiste italien Antonio Gramsci, le terme subalterne se référant chez lui aux relations de subordination de classe, de caste, de race, de genre, de culture, de langue. S'appuyant sur un travail critique dans les archives coloniales, leur méthode à ces subaltern studies, leur méthode d'analyse visait à rendre compte de la société indienne à travers ses catégories dominées, en étant attentif à leur conscience, leur autonomie, leur mode de résistance, leur manière de vivre. À côté de l'ascendant exercé par le marxisme gramscien sur les subaltern studies, la petite musique foucauldienne s'est également fait entendre au sein du groupe. C'est vrai pour son fondateur, Ranajit Guha, et ses membres les plus importants, Partha Chatterjee, David Arnold et Gyan Prakash. Mais d'autres influences françaises se manifestaient, en particulier Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes et Jacques Derrida. Ce qui les inspirait particulièrement dans l'œuvre de Michel Foucault, c'était la critique structuraliste de l'humanisme occidental, l'attention portée aux pratiques discursives, la description du pouvoir en termes de relations disséminées dans la société, l'analyse des dispositifs de surveillance et de discipline, l'exploration des logiques de la biopolitique et des technologies de gouvernementalité, l'étude des phénomènes d'assujettissement et de subjectivation dans la perspective de la compréhension des formes de résistance parmi les subalternes. Cette influence n'empêchait pas la critique, notamment de la part d'ambassadeurs des Subaltern Studies aux États-Unis, qui ont joué un rôle majeur dans la diffusion de cette approche novatrice. Ainsi, l'historien indien Dipesh Chakravarti, de l'Université de Chicago, invite dans « Provincializing Europe » à éviter de redoubler les schèmes occidentalo-centrés. Il affirme « Les écrits des philosophes post-structuralistes, comme Michel Foucault, ont sans doute donné un coup de fouet aux critiques globales de l'historicisme, mais il serait faux de penser les critiques postcoloniales comme dérivant simplement de critiques déjà élaborées par des penseurs postmodernes en Occident. » En effet, pour lui, une telle interprétation renouerait avec l'habituelle représentation diffusionniste selon laquelle les idées naissent dans le monde occidental avant de se disséminer ailleurs et négligerait ainsi l'originalité de recherches comme celle menée dans le monde académique indien, ce qu'on entendait dans certaines remarques de Michel Foucault lui-même. Plus radical encore, la spécialiste d'études littéraires, Gayatri Spivak de l'Université de Columbia, tout en reconnaissant la dette collective à l'égard de Michel Foucault, souligne comment il méconnaît, dans son analyse des changements majeurs du pouvoir qui se produisent en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle, leur inscription dans le projet colonial qui permet l'extraction d'une plus-value qui est ainsi invisibilisée. Je la cite « Accepter cette version d'un Occident autosuffisant est symptomatique de l'ignorance de la manière dont il a été produit par le projet impérialiste. La clinique, l'asile, la prison, l'université semblent faire un écran allégorique qui empêche une lecture plus large des récits de l'impérialisme. » La critique qu'elle soulève ici n'est pas seulement que Michel Foucault ne s'est pas intéressé au reste du monde et même plus spécifiquement au monde colonial, mais qu'il n'ait pas compris à quel point les bouleversements des sociétés européennes dans la période qu'il étudie sont inscrits dans l'expansion des empires coloniaux et, s'agissant du biopouvoir notamment, à quel point le développement du capitalisme a été tributaire de leur extractivisme par le double prélèvement de richesses et de forces de travail dans le monde colonial. Cette absence au cœur de l'œuvre de Michel Foucault n'est toutefois que le reflet d'un silence assez généralisé sur l'entreprise coloniale, dont on voit aujourd'hui encore combien l'effort pour le rompre se heurte à des résistances. Se réconcilier avec Foucault peut s'avérer un processus déroutant, écrit la sociologue britannique Caroline Ramazanoglou dans l'introduction d'un ouvrage intitulé « Up against Foucault », s'élever contre Foucault. D'un côté, je continue de la citer, il apparaît comme ayant beaucoup à offrir pour enrichir les approches féministes. Et de l'autre, cependant, il peut être considéré comme contestant et même fragilisant le féminisme. De la même manière que pour les études coloniales et postcoloniales, se pose dans le cas des études féministes un double paradoxe concernant Michel Foucault, son œuvre et sa réception. D'une part, auteur prolixe sur la sexualité et le sexe, auquel il consacre 4 ouvrages, plusieurs leçons, de nombreux entretiens, il ne traite jamais du genre, ne parle pas de la condition des femmes, ne s'inspire que de penseurs hommes, ne participe pas au combat féministe. D'autre part, il est probablement l'auteur de sexe masculin le plus mobilisé dans les travaux féministes et les études sur le genre, parfois pour s'en distancier, souvent pour s'en réclamer, mais dans tous les cas en conservant un regard critique. Donc au silence foucaldien répond une abondance de commentaires comme si un positionnement était nécessaire, qu'il soit contre ou pour. Ainsi, selon la philosophe états-unienne Margaret McLaren, je la cite, la relation entre Foucault et les féministes a été alternativement décrite comme une danse, comme complémentaire, comme antagonique. Les unes identifient des armes théoriques dans ses écrits, tandis que les autres considèrent qu'ils s'avèrent inutiles, voire franchement néfastes. Que reprochent donc à Michel Foucault les féministes qui le contestent ? Ce n'est pas tant le fait qu'ils se soient jamais intéressés à leurs analyses et à leurs luttes, voire les ait occasionnellement critiqués, que les fondements mêmes de ces théories du pouvoir et du sujet. Pour la philosophe canadienne Monique Devaux, je la cite, « Bien qu'il soit décevant que son œuvre ne s'engage pas directement sur la question du féminisme, cela ne diminue pas l'utilité heuristique de certaines de ses intuitions, mais il est vital pour le féminisme de conserver une perspective critique dans l'appropriation de ses concepts, d'autant que, dit-elle encore, dans la théorie féministe, d'autres ressources existent, mieux adaptées, pour développer une vision alternative du pouvoir et de l'émancipation. » Alors, plusieurs aspects sont considérés comme problématiques dans ces thèses défendues par Michel Foucault. Premièrement, l'importance accordée à l'imposition par les différentes institutions d'une discipline suppose la constitution de ce qu'il appelle des corps dociles, contraint de se conformer au contrôle et à la surveillance des femmes sans permettre de saisir la manière dont elles répondent, voire détournent ou contournent les règles. Deuxièmement, la conception d'un pouvoir s'exerçant nécessairement sur un sujet libre, son expression, excluant de surcroît la violence, méconnaît les formes de domination et d'oppression caractérisant précisément les relations dans lesquelles les femmes peuvent se trouver prises. Troisièmement, la contestation de toute base substantielle aux identités sexuées conduit à rejeter les formes traditionnelles de féminisme en tant qu'elles sont suspectées d'essentialiser les femmes. Quatrièmement, enfin, le rejet des prétentions à la rationalité, à la vérité, à la liberté, censé définir le libéralisme moderne, chez Foucault, semble rendre impossible de fonder l'émancipation des femmes sur des valeurs dont elle pourrait se réclamer. Ces 4 critiques peuvent du reste valoir pas seulement pour les femmes, mais pour toutes les minorités. Cependant, de nombreux travaux s'appuient au contraire sur la pensée de Michel Foucault pour renouveler la théorie féministe et les études de genre, y compris en le critiquant. Le livre de Judith Butler, publié en 1990, Gender Trouble, Trouble dans le genre en français, prend racine, dit-elle, dans la French Theory, qui est elle-même une drôle de construction, ajoute-t-elle, puisqu'elle résulte de l'assimilation d'un certain nombre de travaux à un paradigme unique et unifié. Le point de départ de son propos est une mise en question de ce que la théorie féministe a presque toujours tenu pour acquis, à savoir qu'il existe une identité appréhendée à travers la catégorie femme, laquelle est censée définir non seulement l'objet des luttes féministes, mais également les sujets qu'elles affirment représenter. Or, comme le montre Michel Foucault, il n'y a pas de vérité du sexe qui ne soit le simple résultat de la manière dont sont élaborées et régulées les identités et les différences sexuelles sur la base de normes de genre. C'est sur cette base que peuvent apparaître comme naturelles la binarité des sexes et l'hétérosexualité des relations. Pour autant, Judith Butler n'occulte pas les tensions, voire les contradictions, dans la manière dont Michel Foucault conçoit les relations entre sexualité et pouvoir, entre idées, identités hétérosexuelles et homosexuelles, jusque dans la manière dont il écrit toujours l'homme comme substantif neutre pour parler des êtres humains. La violence des discours homophobes et la vitalité des mouvements LGBTQ dans le monde contemporain soulignent l'actualité de cette approche. Bien que Foucault ne soit pas célébré comme un théoricien de la race et du racisme, son concept de pouvoir contribue à une perspective renouvelée sur le racisme, note la politiste états-unienne Dipa Bandaru, se référant notamment à la notion de guerre des races en lien avec le pouvoir dans le cours « Il faut défendre la société ». Là encore, on est confronté à un décalage entre la place que Michel Foucault accorde à un thème et l'influence que sa pensée exerce sur la manière d'appréhender ce thème. Mais à la différence de la question coloniale à laquelle il consacre une seule phrase dans son œuvre et de la question du genre, qu'il ne mentionne jamais comme telle, il développe de façon certes singulière et limitée une véritable thèse autour de la question de la race. Cette thèse, c'est celle d'une contre-histoire qui apparaîtrait à la fin du Moyen-Âge en contrepoint de la version glorieuse des rois et des victoires. Il l'appelle l'histoire de la guerre des races, sombre et occultée, faite de violence et de soumission. Vous avez pu croire que j'ai entrepris de vous faire l'éloge et l'histoire du discours raciste. Vous n'avez pas eu tout à fait tort, commente avec humour Michel Foucault devant son éditoire. Il est vrai qu'il a une certaine sympathie, non pour le discours raciste, évidemment, mais pour l'histoire des vaincus dont il décrit la binarité interne à la société avec la distinction qu'il reprend entre Gaulois et Francs qu'on retrouve dans divers travaux historiographiques au XVIIIe siècle. Un an plus tôt, l'historien et philologue allemand Reinhard Koselleck avait toutefois proposé une analyse binaire bien différente, à la fois plus profonde dans le temps et plus étendue dans l'espace, de ce qu'il appelle, je le cite, « les concepts antonymes asymétriques par lesquels des peuples se désignent eux-mêmes en s'accordant un privilège moral et politique et désignent les autres en les abaissant à une condition inférieure ». Plus profonde dans le temps donc, car l'auteur part du couple Hélène et Barbare dans l'Antiquité grecque, rappelant que Platon lui-même considérait que les barbares appartenaient à une race distincte et que la guerre contre eux avait pour objectif leur anéantissement, quand Aristote estimait, lui, de son côté, qu'ils étaient par nature des esclaves destinés à subir la domination grecque. Koselleck évoque aussi le couple chrétien et païen, des épîtres de saint Paul dans le domaine de la spiritualité, à l'appel à la croisade du pape Urbain II, ordonnant d'annihiler les ennemis de Dieu, c'est-à-dire les musulmans. Et plus étendu dans l'espace, car ces divisions binaires concernent l'ensemble de l'humanité depuis la perspective d'un groupe dominant, en l'occurrence les Hélènes et les chrétiens dans ces deux cas, qui s'opposent au reste du monde qu'ils connaissent, notamment les Perses dans le premier cas et les musulmans dans le second. Une fois encore, l'actualité montre comment cette binarité arrogante et hostile reste présente dans le monde contemporain, distinguant un Occident civilisé et un Moyen-Orient barbare, cette différenciation rhétorique se traduisant militairement par l'écrasement de l'autre. Pour Michel Foucault, cependant assez curieusement lorsqu'il parle de la guerre des races. Il semble qu'est bien plus important pour lui le premier mot que le second. L'atteste le fait que son résumé du cours, à la fin de l'année, est entièrement construit autour de l'idée que pour comprendre l'ordre politique, ce n'est pas du côté de l'ordre juridique de la souveraineté qu'il faut se situer, mais du côté de la guerre, laquelle devient par un retournement fameux de la formule de Clausewitz, la politique continuée par d'autres moyens. La guerre des races en tant que telle n'apparaît que dans une demi-phrase à la fin du texte, immédiatement remplacée au XIXe siècle par la lutte des classes et le pouvoir sur la vie. Et c'est ce biopouvoir, plus précisément ce qu'il appelle une biopolitique de l'espèce humaine, qui va lui permettre d'analyser, dans la leçon du 17 mars, le racisme d'État. Il est cependant remarquable que l'approche foucauldienne soit ainsi déconnectée des réalités de la question raciale, tant dans la question coloniale, telle que les analysait le psychiatre Frantz Fanon, dans Peau noire, masque blanc, en 1952, que dans le monde contemporain, tel que les étudiait la sociologue Colette Guillaumin, dans l'idéologie raciste, en 1972. Cette déconnexion explique qu'elle n'est eu que ce que sa thèse de la guerre des races n'est eu qu'un impact très marginal sur un domaine à l'époque en plein essor de l'étude du racisme. Finalement, il serait anachronique, mais peut-être pas inexact, de dire, dans le langage de l'intersectionnalité, que Michel Foucault n'a pas parlé du genre, mais a inspiré les théories féministes. S'est intéressé à la race, mais on a peu influencé ce champ d'études, et s'est référé parfois aux bourgeois et aux prolétaires, mais sans prononcer le mot classe. La mort a empêché Foucault de développer toutes les implications du concept de biopolitique et de montrer dans quel sens il aurait développé ses recherches, écrit le philosophe italien Giorgio Agamben au début de son livre « Homo Sacer ». Il s'étonne en effet que l'auteur de « La volonté de savoir » n'ait pas discuté les analyses produites par Hannah Arendt sur, je cite, « le processus qui conduit la vie biologique à occuper progressivement le centre de la scène politique de la modernité », qu'il ait pu entreprendre ses recherches sur la biopolitique sans jamais se référer à elle, à ses théories de Arendt, et qu'il ne les ait jamais déplacées sur les lieux par excellence de la biopolitique moderne, le camp de concentration et la structure des grands États totalitaires du XXe siècle. Même si nazisme et socialisme sont effleurés par Michel Foucault, sans toutefois de mention des camps d'études des totalitarismes, ce point aveugle est assurément remarquable dans son œuvre. Mais il n'est pas lié à la fin précoce de Michel Foucault, comme le suggère Giorgio Agamben. Les brèves évocations du biopouvoir remontent à 8 ans avant son décès, et s'agissant de la biopolitique plus spécifiquement, il annonce 2 années de suite que ce sera l'objet de son cours, et à chaque fois le termine sans l'avoir traité. En fait, il faut aller plus loin même. C'est de la vie en tant que telle dont il n'est pratiquement jamais question dans son œuvre. Si donc, contrairement à ce que l'étymologie du mot laisse supposer, la biopolitique n'est pas une politique de la vie, que serait alors une politique de la vie? Telle est la question à laquelle j'ai essayé de répondre depuis de nombreuses années, en tâtonnant, en reformulant, en enquêtant en Inde, en Tunisie, au Sénégal, en Équateur, en Afrique du Sud, en France, en somme en menant ce qu'on appelle un travail de recherche tout simplement. Dans The Human Condition, traduit en français la condition de l'homme moderne, auquel Giorgio Agamben faisait allusion, Hannah Arendt distingue 2 sens du mot « vie ». Le premier concerne, je la cite, l'intervalle entre la naissance et la mort, et donc les 2 événements suprêmes de l'apparition et de la disparition dans le monde. Ainsi délimitée, cette vie est commune à tous les êtres précisément dits « vivants », qu'ils soient des microbes, des plantes, des animaux ou des êtres humains. Le second, poursuit-elle, se réfère à l'existence en tant qu'elle, je la cite, en tant qu'elle est toujours emplie d'événements qui à la fin peuvent être racontés et peuvent donc fonder une histoire cohérente. Ainsi caractérisée dans ce second sens, la vie est bien sûr spécifique à l'expérience humaine. Cette distinction se trouve déjà sous une certaine forme chez Aristote, dans l'opposition qu'il fait entre Zoé, la vie qui s'inscrit dans une temporalité finie, et Bios, la vie à laquelle le langage donne une forme. La vie a donc, pourrait-on dire, une double composante, biologique et biographique. La vie d'être vivant et la vie telle que vécue, pour parler comme Georges Canguilhem. Dès lors, la politique de la vie peut se comprendre à l'articulation de ces deux dimensions de la vie comme phénomène s'étendant de la naissance à la mort et comme succession d'événements susceptibles d'être racontés. Elle se manifeste dans la manière dont sont traitées les vies à la fois biologiques et biographiques, par le pouvoir, ou plutôt par les pouvoirs. Ce que la politique fait à la vie et ce que les pouvoirs font aux vies, tel pourrait alors être le programme de recherche. De cette approche, je donnerai pour illustration deux ouvrages dont les autrices engagent une discussion féconde avec les thèses foucauldiennes. Dans Life Exposed, la vie exposée, l'anthropologie états-unienne Adriana Petrina explore la manière dont les autorités soviétiques ont réagi à l'explosion du réacteur nucléaire de Tchernobyl en 1986. Le long silence du gouvernement et des organes de presse officiels sur la catastrophe et ses conséquences potentielles pour la santé, puis le retard à l'évacuation des 90 000 habitants de la région devenue zone d'exclusion, enfin l'envoi de plus d'un demi-million de soldats, pompiers et ouvriers sur le site pour le nettoyer, le décontaminer et y construire un sarcophage destiné à contenir les radiations, ont causé parmi toutes ces personnes de nombreuses et graves brûlures et pathologies, en particulier des cancers thyroïdiens, la toxicité des doses reçues étant souvent minimisée par la modification des normes tolérées. Après l'indépendance du pays en 1991, cependant, le nouveau gouvernement ukrainien a développé un programme spécifique d'aide financière et de gratuité des soins pour les 3,5 millions de personnes affectées par l'accident nucléaire, avec une gradation des allocations en fonction de la sévérité de l'atteinte et de l'importance de l'invalidité. Le pouvoir, d'abord soviétique, puis ukrainien, s'est ainsi manifesté dans les vies des résidents et des travailleurs, à la fois par une négligence des risques et par une manipulation des savoirs, mais également, après le changement de régime, par une forme tardive de protection sociale qu'Adriana Petrina qualifie de « citoyenneté biologique », associant dans cette expression les deux dimensions de la vie. Avec Starve and Immolate, affamé et immolé, la philosophe turque Banu Bargu s'attache aux grèves de la faim qui se sont produites en 2000 dans les prisons de Turquie, après que le gouvernement avait annoncé leur déplacement d'établissements pénitentiaires où ils étaient placés dans des dortoirs collectifs vers des quartiers de haute sécurité où ils seraient mis à l'isolement dans des cellules individuelles. Au cours de cette mobilisation, 1200 détenus, pour la plupart kurdes et communistes, ont cessé de s'alimenter afin de faire pression sur les autorités qui, malgré la décision des prisonniers de jeûner jusqu'à la mort, sont demeurés inflexibles. Pour faire cesser le mouvement, les forces de l'ordre sont intervenues lors d'une opération cyniquement appelée « retour à la vie », qui s'est soldée par la mort de 32 grévistes, les uns tués par balles, les autres s'étant immolés, l'intervention faisant plus de 400 blessés, tandis que 28 autres détenus mouraient peu après d'inanition. On a donc affaire à une confrontation violente entre l'État turc et des prisonniers politiques. Le premier cherchant à casser les formes de solidarité au sein des prisons, les seconds déterminés à défendre un droit à des conditions dignes. L'enjeu de cette confrontation était les vies que les détenus étaient prêts à sacrifier pour leur cause et que le gouvernement affirmait vouloir préserver en décidant toutefois une action meurtrière. Ce que s'efforce d'appréhender Banu Bargu, c'est donc le sens qu'il y a à faire de sa vie l'ultime arme politique pour des militants qui n'ont plus d'autre moyen d'être entendus, produisant ainsi ce qu'elle appelle une nécro-résistance, résistance jusqu'à la mort, par laquelle la suppression volontaire de leur vie physique met en défaut le projet du pouvoir souverain de les priver de leur vie politique. Double dimension de la vie à nouveau. Ces politiques de la vie, c'est sous l'angle des inégalités que, pour ma part, je les ai abordées. Je l'ai fait dans divers contextes, français et internationaux. Mais la guerre qu'a menée Israël à Gaza après les attaques meurtrières du 7 octobre 2023, guerre qualifiée de génocidaire par nombre d'universitaires, experts des meurtres de masse, par plusieurs organisations internationales de droits humains et par la Commission d'enquête indépendante des Nations Unies, m'a conduit à réviser mon approche de cette question d'une manière qui, tout en préservant la spécificité de la situation locale, a, je crois, une portée plus générale sur la façon de penser l'inégalité des vies humaines. Par souci de clarté, je conserverai mais compliquerai quelque peu la distinction que j'ai proposée entre vie biologique et vie biographique. La question de la vie biologique d'abord. Elle prend un tour extrême dans ce contexte puisque les responsables politiques et militaires israéliens ont d'emblée annoncé leur intention de détruire Gaza et de décimer sa population, et ce non seulement par des bombardements massifs, des attaques de drones, des tirs de snipers, mais également par la dévastation des infrastructures, des hôpitaux, des sources d'eau potable, des zones de culture agricole, auxquelles se combine le blocus de l'aide humanitaire et la raréfaction de la nourriture. En d'autres termes, la mort brutale qui élimine des familles entières était redoublée par la mort lente, plus désespérante encore pour celles et ceux qui y assistent impuissants. Les 72 063 décès identifiés à la mi-février 2026, dont 83% de civils selon l'armée israélienne elle-même, représentent une sous-estimation considérable, non seulement en raison des milliers de cadavres ensevelis sous des décombres ou dans des fosses communes, mais surtout en raison des morts indirectes, dû à l'insécurité alimentaire, aux problèmes d'hygiène, à la contamination de l'environnement, à la destruction des structures de soins et à l'assassinat des personnels de santé. Une enquête épidémiologique pionnière réalisée récemment par une équipe de l'Université de Louvain sur les 15 premiers mois de la guerre montre ainsi que le nombre de morts violentes était en fait 53% plus élevé que celui qui était enregistré par les autorités palestiniennes, à quoi s'ajoutait de plus un excès de morts non violentes représentant 17% de cette statistique officielle. Une extrapolation à la situation en février 2026 indique donc non pas les 72 000 morts dont j'ai parlé, mais 122 500 morts, dont 101 000 civils, parmi lesquels 28 700 enfants. Au regard de ces chiffres, la comparaison macabre du nombre des victimes suggère que la vie d'un civil palestinien vaut 133 fois moins que celle d'un civil israélien et que la vie d'un enfant palestinien 800 fois moins que celle d'un enfant israélien. Encore, la période concernée par l'enquête n'inclut-elle pas les mois au cours desquels la famine a été déclarée, des épidémies se sont produites, d'autres hôpitaux ont été réduits à l'état de ruine. Mais on ne peut plus parler ici de politique de la vie, ce sont des politiques de la mort, dont les chiffres toutefois ne suffisent pas à donner le sens. Car les statistiques disent bien plus que les données qu'elles livrent. L'impossibilité pour les autorités palestiniennes d'établir une comptabilité précise des décès en raison de l'intensité des frappes, de l'enfouissement des corps, de la dispersion des fragments humains et des difficultés de communication signifie une perte de valeur des morts. Quand on ne parvient plus à les compter, c'est qu'elles ne comptent plus. Elles ne sont plus que des chiffres, mais des chiffres incertains. De plus, le discrédit jeté par le gouvernement israélien, le président états-unien, les journalistes français sur la validité des listes des martyrs quotidiennement diffusées par le ministère de la Santé de Gaza affectait une seconde fois les victimes. On avait pris leur vie, on les privait de leur mort. Mais au-delà des statistiques incertaines et contestées, c'est le traitement des défunts qui invite à penser autrement l'inégalité. Les familles israéliennes qui pleuraient le décès d'un proche tué ont pu, parfois tardivement dans le cas des otages, lui témoigner de leur affection, accomplir les rites religieux et procéder à une inhumation digne. Les familles palestiniennes qui pleuraient elles aussi la perte d'un être cher abattu ou bien enlevé par des militaires ennemis se sont trouvées souvent dans l'incapacité de l'honorer en respectant les prescriptions rituelles faute de disposer de son corps, soit qu'on ait refusé de le rendre, soit qu'on l'ait fait disparaître lors d'opérations de déblaiement, soit qu'on ait restitué des monceaux de cadavres anonymes, impossibles à identifier. Pour désigner ce phénomène, l'anthropologue Stéphanie Latabdallah parle de nécroviolence. Lors de la recherche des restes du dernier otage israélien, les bulldozers de l'armée ont éventré un cimetière en violant plus de 200 sépultures palestiniennes. La vie supprimée était ainsi brutalisée une nouvelle fois. Même le repos des morts n'était pas respecté. L'inégalité des vies peut-elle toutefois se résumer à ces statistiques de mortalité, ces flétrissures de cadavres et ces profanations de tombes? Ne faut-il pas penser aussi la vie telle qu'elle est vécue par celles et ceux qui sont encore vivants? Il faut donc aborder la vie biographique en tant qu'elle est faite de ces événements qu'il est possible de raconter. Pour les survivants, donc, qu'est-ce que cette vie? Il y a d'abord l'existence. Avant 2023, pour beaucoup, ce sont les conditions des camps de réfugiés où leurs parents ou grands-parents ont été installés après avoir été expulsés de leur terre en 1948. Et pour toutes et tous, c'est l'état de siège avec de multiples privations en termes de droits humains comme de ressources vitales à Gaza. Et lors des manifestations pacifiques de la Grande Marche du Retour, ce sont plus de 36 000 blessés, dont beaucoup ont dû être amputés à la suite de tirs de snipers israéliens, qui ont également causé la mort de 214 personnes. Il y a ensuite l'existence à partir du 8 octobre 2023. Pour celles et ceux qui ont pu raconter ce qu'ils avaient vécu, souvent des poètes, parfois des cinéastes, également des journalistes, et beaucoup de jeunes femmes et hommes sur les réseaux sociaux, revient très fréquemment l'incommunicabilité de l'expérience quotidienne du massacre, de l'explosion des bombes, du bourdonnement des drones, du spectacle des fragments de cadavres de proches, de la désolation de la perte de tous les biens, de l'humiliation des civils dénudés, battus et enlevés, de la terreur et du silence des enfants traumatisés, de la faim et de la soif. En somme, de ce que les dignitaires du régime israélien avaient annoncé en disant que l'opération militaire devait rendre à Gaza la vie invivable. Cette incommunicabilité ne résulte cependant pas d'une impossibilité de raconter, mais d'une impossibilité d'être entendu. En témoigne la poétesse Ala Al-Qatraoui, qui continue d'écrire avec une infinie délicatesse à l'adresse de ses quatre jeunes enfants assassinés par l'armée israélienne. Bien que lauréate du programme d'accueil des scientifiques et artistes en danger soutenu par l'État français, elle se heurte, comme des dizaines d'autres Palestiniens de Gaza, au refus de la France de lui délivrer un visa. Car l'inégalité des vies, c'est aussi dans l'économie de l'attention et dans une distribution de l'indifférence qu'elle se manifeste. Le traitement médiatique de la guerre et de ses victimes, surtout pendant la première année, l'a montré. Côté israélien, de l'attente angoissante des familles des otages et des mobilisations pour leur libération, du désarroi des habitants du nord du pays contraints de quitter leur domicile en raison des tirs de roquettes, de la poursuite des loisirs dans les stations balnéaires, on a presque quotidiennement eu des échos dans la presse, en complément des interventions de responsables politiques et militaires justifiant la conduite des opérations. Côté Gazaoui, en revanche, l'interdiction faite aux journalistes étrangers de pénétrer dans le territoire a servi de justification pour ne pas rendre compte de la violence de l'hécatombe et de la souffrance des survivants, dont tous les proches avaient été tués, de la douleur des blessés amputés sans anesthésie, du désespoir des mères devant le corps émacié de leurs enfants, de la détresse des pères impuissants à trouver de la nourriture, des tortures et des viols subis dans les prisons et les camps israéliens. Tous éléments relatés par des reporters israéliens et des reporters palestiniens, ces derniers qui risquaient leur vie pour faire connaître celle des habitants de l'enclave. Le tribut qu'ont payé ces derniers, ces journalistes, plus de 200, avaient été tués selon les statistiques établies à la fin de l'année 2025, ce qui en fait la guerre la plus meurtrière pour leur profession de tous les conflits des dernières décennies, souligne combien la possibilité de raconter les événements est devenue aujourd'hui un marqueur essentiel de l'inégalité. Ces voix qu'on ne veut pas écouter disent assurément quelque chose des vies auxquelles on accorde plus de valeur. Me suis-je donc éloigné du projet foucauldien? Peut-être. Mais faudrait-il imaginer alors que le biopouvoir, c'est-à-dire le pouvoir sur la vie, ne se traduirait pas par une inégalité des vies? Devrait-on dans ce cas concevoir une biopolitique, littéralement politique de la vie, qui se désintéresserait de la manière dont on traite les vies? Et pourrait-on finalement consacrer une année à parler du gouvernement des vivants sans s'interroger sur ce que sont ces vies? Au fond, rendre hommage à un penseur n'est-il pas de penser avec lui et parfois contre lui? Le moment est venu de conclure non seulement cette leçon, mais aussi l'ensemble de ce cycle. Je le ferai non pas en esquissant une impossible synthèse, compte tenu de la richesse des travaux de Michel Foucault, que j'ai essayé de vous montrer, mais en évoquant un souvenir personnel. Michel Foucault est mort il y a 42 ans. Dans l'hommage nécrologique qu'il lui rend, Édouard Saïd note, note l'ironie du fait qu'il se soit éteint dans un lieu dont il avait étudié les archives pour ce qui fut son premier grand livre, L'histoire de la folie, à savoir l'hôpital de la Salpêtrière. C'est là que je me suis trouvé pour la seule fois de ma vie en présence de Michel Foucault. Je n'avais jamais suivi ses cours, je ne l'avais jamais rencontré, mais je l'avais beaucoup lu. Le jour où il a été hospitalisé, au début du long week-end de Pentecôte, de 1984, j'étais le seul médecin encore présent dans le département de maladies infectieuses et je fus donc appelé auprès de lui dans le service de neurologie où il venait d'entrer. J'étais assurément ému de passer ce moment triste et précieux, seul avec lui. J'en garde le souvenir de sa simplicité, de sa douceur, de sa sérénité apparente, malgré les circonstances. Notre échange fut cordial, mais évidemment centré sur la clinique, assez bref cependant, car disposant de son dossier médical, je ne voulais pas le fatiguer de questions. En le quittant, je lui dis que, comme c'était l'usage, une discussion multidisciplinaire des spécialistes de sa maladie aurait lieu la semaine suivante pour décider de la meilleure stratégie de sa prise en charge. Au regard de l'infection cérébrale dont il souffrait, je savais qu'un traitement dit d'épreuve serait entrepris avec l'association de deux médicaments dont nous avions pu constater sur d'autres patients les résultats spectaculaires. Un changement majeur de protocole thérapeutique était en effet intervenu quelques mois plus tôt pour cette pathologie. Auparavant, on réalisait une intervention neurochirurgicale avec biopsie des lésions afin d'identifier sur les fragments le germe en cause. Mais l'opération avait souvent des suites compliquées, parfois mortelles. Cette pratique dangereuse avait donc été remplacée par l'administration d'un traitement sur la seule base des images radiologiques, sans preuve microbiologique donc. La régression et même la disparition des lésions étaient observées très fréquemment, ce que confirmèrent les essais cliniques parisiens réalisés les années suivantes qui montraient une amélioration 9 fois sur 10 et une guérison 6 fois sur 10. Seulement dans les rares cas où le traitement s'avérait inefficace, la biopsie était envisagée. Lorsque je m'enquis la semaine suivante de l'état de santé du patient, j'appris que sans concertation avec les infectiologues spécialistes de la pathologie, les neurologues avaient décidé de le faire opérer, ce qui, compte tenu de l'importance des lésions que j'avais vues, me semblait impliquer un risque élevé d'édème cérébral. Quelques jours après l'intervention neurochirurgicale, la presse annonça la mort de Michel Foucault. Alors pourquoi évoquer cette histoire ? Pendant très longtemps, je l'ai tue. Lorsque, 26 ans après les faits, j'ai été sollicité pour participer au cahier de Lerne dédié à Michel Foucault avec la demande, de même qu'à d'autres contributrices et contributeurs, de raconter la manière dont son œuvre m'avait accompagné, j'ai rédigé un article dans lequel j'expliquais comment j'ai écrit certains de mes textes, j'y ai déjà fait référence, en me servant des siens comme une source d'inspiration dont l'usage a varié au fil des ans. Évoquant, comme je viens de le faire précédemment, ses absences, les points aveugles de ses enquêtes, j'ajoutais que j'avais toujours eu à l'esprit le fait qu'ayant tellement renouvelé sa pensée au cours du temps, il était probable qu'il aurait lui-même effectué des corrections de sa trajectoire s'il avait vécu plus longtemps. Or, il me semblait que la chose n'eût pas été impossible si un enchaînement malheureux de faits ne s'était pas produit. Et j'ai alors pensé que je pouvais, peut-être devais, pratiquer ce que Michel Foucault appelait le dire vrai sur un épisode de sa vie que j'ai toujours porté en moi, ce que j'ai fait, ultime hommage rendu à un homme qui avait consacré ses derniers efforts intellectuels au courage de la vérité. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.